Oui. Bon, on dit que c'est beau de voir un enfant naître, mais est-ce que l'un de nous a assisté à l'apparition d'une nouvelle forme de vie? Une vie qui ne serait pas de ce monde, qu'on ne connaîtrait jamais, et qui, quelque chose qui serait entièrement nouveau. Alors, on ne va pas parler de science-fiction ce matin, mais d'une réalité qui dépasse tout ce que je crois l'esprit humain peut imaginer. Et le titre du message, c'est Jésus a envoyé le Saint-Esprit de Dieu pour souffler sa vie à l'Église. Souffler, insuffler sa vie à l'Église. Alors, on va voir cette église, cette chose nouvelle que Dieu a créée, cette nouvelle création de Dieu. On va voir déjà apparaître ce qui fait sa caractéristique, on pourrait dire peut-être son ADN. Alors, je vais lire une première partie de Actes chapitre 2. On va s'intéresser aux 36 premiers versets ce matin. Et donc, je lis Actes chapitre 2. Donc, les 13 premiers pour commencer, vous les avez sous les yeux, on les gardera sous les yeux pendant tout ce message. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes chapitre 2, verset 2. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venues de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, elles coururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, dans notre texte, le Saint-Esprit a manifestement été donné à des êtres humains. On a un bruit de vent. Le texte ne dit pas que le vent soufflait, mais tout le monde entendait ce vent, un vent énorme, et la ville entière a accouru pour voir ce qui se passait. Et donc ce vent, il a rentré et il a en quelque sorte immergé tous ces les 12 ou les 120, on a l'habitude de penser que c'est les 120 qui, comme dans le texte précédent, étaient les mêmes personnes étaient rassemblées. Donc, toute le groupe des apôtres et des disciples de Jésus. Et des langues de feu se posent ou s'assoient sur leur tête. Hein, le terme, c'est s'asseoir sur leur tête. Et donc, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Notre texte est clair. Ils ont reçu le Saint-Esprit selon la promesse que Jésus avait faite. Jésus avait dit, il sera en vous, il sera en vous. Une première dans l'histoire de l'humanité, donc. Et les versets 5 à 8, il y a un phénomène qui fait interroger beaucoup les personnes qui sont venues en foule, c'est qu'ils les entendent parler dans leur propre langue. Les 120 deviennent polyglottes. Ils se mettent à parler dans toutes sortes de langues étrangères. Et ce sont des langues qui sont comprises par les gens qui se trouvent là, qui sont venus pour la fête de Pentecôte, pour la fête des prémices. Ils sont venus de quatre coins de l'Empire romain et au-delà. Ils sont venus à Jérusalem et connaissent la langue de ces pays, ils sont nés dans des pays étrangers et ils entendent des personnes qui leur disent quoi ? Qui leur parlent des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Ils entendent les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle et ils n'avaient jamais, jamais entendu ça. C'est quelque chose qui les bluffe complètement. Un phénomène inédit, un phénomène surprenant. Entendre les louanges de Dieu, non pas dans la langue hébraïque, non pas en araméen, non pas en grec, mais dans leur propre langue, dans le dialecte de là où ils étaient. Les premiers, ce qu'on appelle le parler en langue, et on va le retrouver tout au long, enfin, à plusieurs reprises, dans le livre des Actes. Ce qui est curieux, c'est qu'on a ces douze nations, il y a 12 nations qui sont citées, et ça part de l'ouest, l'est en ouest, comme ça. Toutes ces nations qui sont citées, les voilà un petit peu là où elles étaient dispersées dans tout le monde connu de l'époque. Et Crétois et Arabes. Certains commentateurs disent on peut parler, les Crétois c'est les Grecs, c'est l'Occident, et les Arabes, c'est l'Orient. Donc de l'Occident à l'Orient, on les entend parler dans nos langues maternelles. Il y a encore quelques jours, Jésus leur avait donné la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, il était monté 40 jours après sa résurrection. Et donc, c'était pas vieux où il leur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, ou jusqu'aux extrémités du monde. Et ça a été complètement pour des pêcheurs de Galilée. Comment on va être témoins, nous, de Jésus aux extrémités du monde? Et on voit là que c'est quelque chose qui se produit, peut se produire d'un coup. On a toutes ces personnes là qui sont venues et qui vont pouvoir entendre les merveilles de Dieu, qui vont pouvoir entendre l'évangile, qui vont pouvoir se tourner vers Jésus-Christ et repartir chez elles, et d'un coup d'un seul, l'évangile va être propagé partout. Potentiellement, ça peut aller très vite. Dieu est grand, il fait des choses merveilleuses, il fait des choses surprenantes, et on est admiratif devant l'œuvre de Dieu, devant ce qu'il a décidé de faire. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Alors, c'est la stupéfaction. Et donc, comment comprendre ce qui se passe? C'est la question que se posent les personnes qui entendent ce phénomène de parler en langue. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on va lire la suite. Parce que Pierre va donner une explication. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, lui le 12e, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce que a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, ils prophétiseront, je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Comment comprendre ce qui se passe? Le Saint-Esprit est répandu sur 120, c'est très peu de personnes. Mais l'apôtre Pierre a une explication théologique à ce qui se passe à partir des écrits du prophète Joël. Et il parle bien sûr à des juifs, à des hébreux, à des gens pieux qui sont venus à Jérusalem faire ce grand pèlerinage, traverser plusieurs pays pour se rendre à Jérusalem pour la fête des prémices, la fête de Pentecôte. Alors le livre de Joël, qui est cité ici, du verset 17 au verset 21, il est dans un contexte, et c'est intéressant de se pencher sur le livre de Joël que Pierre a cité, une grosse partie de ce livre. Pour autant, il n'est pas très long. Vous pouvez le chercher dans vos Bibles si vous voulez. Il est dans les petits prophètes, on appelle ça. Il y a 4 ou 5 chapitres suivant les versions de Bible que vous avez. Le livre de Joël, il est difficile à situer dans l'histoire d'Israël, dans la grande fresque ici, parce qu'il ne donne aucun point d'accroche, aucune référence historique, si ce n'est un événement qui a été marquant, qui a marqué les gens de cette époque-là, une invasion de sauterelles. Et vous savez ce que c'est les invasions de sauterelles? Elles sont toujours d'actualité. Encore aujourd'hui, les sauterelles font des ravages dans certains pays. Elles viennent en essaim, elles se transforment, quand elles sont nombreuses, elles se rassemblent ensemble, elles changent de morphologie, elles deviennent un essaim et elles voyagent jour en jour, elles partent le matin, elles arrivent, elles tombent quelque part, elles mangent tout ce qu'il y a, elles passent la nuit, dès que le soleil revient, hop, quelques temps après, tout l'essaim se repart, avance un peu, redescend, mange tout, et ça dévore absolument toute la végétation. Et c'est qu'un fléau terrible, parce que ça mange les récoltes. Et on voit ça, et les essaims peuvent être immenses, très grands, hein, plusieurs kilomètres carrés, c'est quelque chose, plusieurs dizaines de kilomètres carrés, c'est quelque chose qui est phénoménal et un vrai fléau encore aujourd'hui. Le livre de Joël s'adresse à ce peuple, c'est le peuple de Juda qui vit cela. Il n'est pas forcément le peuple de Juda n'est pas tombé dans une idolâtrie grossière comme les voisins d'Israël au nord, mais voilà, ils adorent, continuent d'adorer l'Éternel, mais quelque part le cœur n'y est plus. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et donc cette invasion de sauterelles est un avertissement pour le peuple. Et le prophète Joël appelle tout le peuple à la repentance. La parole fut adressée à Joël, le fils de Pethuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et vos enfants, aux générations suivantes. Et il décrit le carnage, ce qu'a laissé le Gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Géleg l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Géleg, le Hazil l'a dévoré. Le tout a été complètement mangé. Et donc c'est un appel à la repentance. Hein? Dans son livre, Joël appelle le peuple à la repentance. Verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards. tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Et Dieu va faire grâce au peuple, il va disperser les sauterelles et envoyer sa bénédiction. Joël 2:18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moût, de l'huile, et vous serez rassasiés, et je vous livrerai plus à l'opprobre parmi toutes les nations. Mais dans ce texte-là, en arrière-plan de Joël, il y a un autre événement qui est décrit. Joël prophétise le jour de l'Éternel, un jour qui sera, qui amènera un jugement beaucoup plus sévère et suivi d'une repentance beaucoup plus profonde et beaucoup plus générale du peuple d'Israël. Et il y aura à ce moment-là une bénédiction historique. Et cette bénédiction historique, c'est celle qui est prophétisée ici, du verset 17 au verset 21. Chapitre 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais dans la suite des anges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. En arrière-plan de ce phénomène, il annonce de sauterelle, il annonce quelque chose de plus grand. Le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel va venir. Et donc, voici la citation que fait Pierre. De mémoire, il connaissait sans doute ce texte. Il avait sans doute réfléchi avec tous les apôtres, mais où est-ce que dans la Bible on parle de la venue du Saint-Esprit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Il dit sur tout être humain, mes serviteurs, mes servantes, je déverserai mon esprit, ils prophétiseront, je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des siracles, des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, de vapeur de fumée. Et est-ce que les gens ont assisté à toute cette prophétie? Non, ils n'ont pas assisté à toute cette prophétie. Mais ils ont assisté à des prémices de cette prophétie. Comme la destruction des cultures et des sauterelles au temps de Joël était le prémice d'un événement beaucoup plus grave, le jour de l'Éternel, le don du Saint-Esprit manifesté par le parler en langue et le prémisse du grand jour de l'Éternel à venir. Il est temps de se repentir, car le jour de l'Éternel approche. Déjà, le Saint-Esprit est donné, le monde entier est entré dans les derniers jours. Et nous sommes quelque part dans ces derniers jours. On voit un premier bouleversement opéré par le Saint-Esprit. Pierre, qui est un pêcheur de Galilée, La tradition rapporte qu'il ne savait pas, il ne savait pas lire même. Et voilà qu'il donne une explication biblique, une explication théologique à ces gens de ce qui se passe. Ce n'est pas un scribe érudit qui parle, mais c'est un pêcheur de Galilée. Et il y a quelque chose de surprenant qui se passe ici, et de décisif. L'interprétation des Écritures est donnée aux apôtres parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu est en eux. Et déjà, on devine que l'enseignement, l'interprétation des Écrits vont basculer, vont glisser. Ce ne sera plus les scribes, ce ne sera plus les sacrificateurs au temple, mais ce sera ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ceux qui constituent l'Église de Jésus-Christ. Écoutez-les, ne les imitez pas, avait dit au peuple Jésus en parlant de l'enseignement des scribes. Mais en ce qui concerne les apôtres, il faut les écouter, les apôtres, et même les imiter parce qu'ils sont eux-mêmes des imitateurs de Jésus-Christ. On rentre dans une ère nouvelle. On rentre dans une ère nouvelle. Et donc le premier brin de l'ADN de l'Église apparaît. L'Église est le nouveau peuple tiré de la parole de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu, c'est toujours le peuple juif à ce moment-là, composé uniquement de juifs, mais il est habité par l'esprit de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait partie de l'ADN de l'Église, Dieu Jésus. Dieu avait donné vie à Adam en soufflant dans ses narines, un souffle de vie, et Adam était devenu une âme vivante. Et Dieu donne ici vie à son Église en lui donnant son propre esprit, sa propre vie. C'est quelque chose qui est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Dieu fait une nouvelle création. Et ceux qui reçoivent l'esprit de Dieu sont de nouvelles création, nouvelle créature. Ils font l'expérience de ce que Jésus avait déclaré quand il disait « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a plus grand, disait-il, que Jean-Baptiste. Il n'y a jamais eu d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, il ajoute, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Luc 7, 28. En effet, le plus petit dans le royaume des cieux, il a l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit même de Dieu est en lui, quelque chose de nouveau. Continuons. Donc l'explication théologique de Pierre sur les événements qui se passent. Quelque chose qui commence seulement, mais qui va aller jusqu'à son accomplissement. Le jour de l'Éternel, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ça y est, ça a commencé. On est entré dans les derniers jours. Qui a envoyé cet esprit? Qui est à l'origine de tout cela? Pierre continue son discours. C'est Jésus de Nazareth. Ah, d'abord, je vais le lire. Pardon. La suite du texte. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant parmi lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé le lien de la mort, il l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, et il cite le psaume 16, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon cœur reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection de Christ qu'il avait prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Qui a envoyé le Saint-Esprit ? C'est Jésus de Nazareth, le Messie ressuscité, qui a donné le Saint-Esprit. Et il avait averti lui-même, « Je bâtirai mon Église, je bâtirai moi-même mon Église. » Et là, on a le premier témoignage rendu à Jésus-Christ. « Vous serez mes témoins. » Et ça y est, ça se met en marche. Jésus est désigné par Dieu comme le Messie par l'accomplissement de miracles fantastiques qui s'étaient produits. Et tout le monde était au courant de ça à Jérusalem. « Vous l'avez fait mourir », affirme clairement Pierre. Quoique c'était là le plan de Dieu qui s'accomplissait, Dieu avait prévu que son Messie serait mis à mort. Mais ses assassins n'en sont pas moins responsables. Et la semaine dernière, Patrick a longuement développé la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. Et vous pouvez réécouter le message de la semaine dernière. Dieu l'a relevé de la mort selon les Écritures. Et le psaume 16 est cité, et il est magnifique ce psaume 16. Il est magnifique. On va le lire ensemble, on ne va pas le lire en entier. Pourquoi il est magnifique ? Parce que c'est un psaume qui concerne le Messie. C'est un psaume messianique, un psaume prophétisé par David, hymne de David, psaume 16. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es mon bien suprême, a traduit la traduction de seconde 21. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne réponds pas à leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage, il est mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. On sait ce que c'est cette belle possession. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne s'en sers pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas à ton bien-aimé de voir la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Le Messie devait ressusciter des morts. On a là la confirmation de cet ADN de l'Église qui consiste à être un peuple de la parole de Dieu. L'Église est le peuple de la parole de Dieu, c'est dans son ADN, c'est dans ce qu'elle a au plus profond d'elle. Vous vous souvenez quand Jésus avait été rentré triomphalement à Jérusalem, et là, tous les responsables politiques, les élites, etc., l'avaient harcelé pour qu'il tombe dans un piège, pour qu'il soit décrédibilisé. Et Jésus leur avait cloué le bec à tous en leur posant une seule question. Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ? David dit dans le psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Dieu l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils ? Luc 21, 41, 44. Et là, personne n'avait la réponse. Et voici, un homme sans instruction, Pierre, donne, répond à cette question de défi qui avait été lancée à tous ces intellectuels, tous ces savants. Jésus-Christ est le Messie ressuscité. Il était avant, que fut David. Il a été, il s'est incarné, il est devenu un homme. Le Saint-Esprit est celui qui illumine les Écritures. Et chacun qui a reçu le Saint-Esprit fait cette expérience. Quand il lit la Bible, voilà, Dieu lui parle. C'est son... devient la Bible devient le livre préféré des chrétiens, le livre préféré de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils le comprennent, ils l'aiment, ils le lisent. Ça devient leur ADN, un peuple, le peuple de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer après? Pierre termine avec ce verset. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Il n'y va pas par quatre chemins. Il dit à ses auditeurs, contemplez Jésus. Regardez maintenant, regardez Jésus. Jésus avait dit par rapport au Saint-Esprit, il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le personnage principal de tout ce texte n'est pas Pierre et quelque part n'est pas non plus le Saint-Esprit, le principal personnage est Jésus-Christ, celui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, on l'invite et on est invité à contempler Jésus ce matin. C'est le Seigneur de David, c'est le Fils de David, le descendant légitime de David, c'est aussi le Fils de l'homme. Comme il se désignait lui-même. C'est le sauveur, c'est lui le héros. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et nous devons contempler Jésus, même si nous ne sommes pas juifs, même s'il y a des choses qu'on se dit, mais je suis loin de tout ça. Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité Jésus parce qu'il n'était pas possible qu'elle la retienne. Jésus est le seul homme de tous les temps qui soit revenu de la mort, le seul qui soit revenu de la mort. Avons-nous besoin que des personnes viennent nous dire cela dans des langues qu'on ne comprend pas pour croire cette vérité? Et si c'est vrai, allons-nous continuer de vivre comme avant, comme si ce n'était rien qu'un homme soit ressuscité des morts? Nous devons, nous aussi, contempler Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi contempler l'Église de Jésus-Christ qui a vu la vie, qui est une nouvelle vie qui apparaît là. L'Église de Jésus-Christ, elle est de Dieu, l'Esprit de Dieu l'anime et elle est dès sa naissance en mission. À peine est-elle née que immédiatement le témoignage de Jésus se met en marche. La défense apologétique de la foi de Jésus-Christ, de la foi chrétienne, chrétienne c'est Christ, se met en place. Être témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre semblait impossible. Et voilà, tout à fait, on découvre tout à fait, mais oui, c'est possible, mais oui, cela va se produire. Cela semble tout à coup comme étant à portée de la main. Il suffit que les auditeurs de Pierre se convertissent. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? C'est la suite du message qu'on verra la semaine prochaine avec Patrick. Je pense que nous devons nous aussi, si nous pouvons contempler l'Église de Jésus-Christ, combien elle est différente, et l'apôtre Paul enseigne que sa gloire est voilée. On ne voit pas sa gloire, mais un jour, le monde entier verra la gloire de l'Église de Jésus-Christ, celle qui a l'Esprit Saint en elle. Nous pouvons aussi nous repentir. Alors nous sommes dans cet espace de temps entre le don du Saint-Esprit et le jour du jugement. C'est le temps des derniers jours qui ont commencé. Et depuis 2000 ans, on est toujours dans les derniers temps, entre le début de la prophétie de Joël et la fin de la prophétie de Joël, dans cet espace des derniers temps. Le temps donc pour se repentir, le temps pour se tourner vers Jésus et reconnaître que Jésus de Nazareth est le Messie et croire en lui. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et une question importante surgit pour nous. Sommes-nous innocents de cette crucifixion de Jésus? Sommes-nous innocents? Est-ce que Pierre s'adresse seulement aux Israélites de son temps ou est-ce qu'il s'adresse aussi à nous? Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse à cette question? C'est une question qui est importante. Est-ce que je suis dedans ou pas? Patrick aura l'occasion de développer ça la semaine prochaine, mais en attendant, on peut réfléchir à tout cela. Pour le moment, je vous invite à contempler encore cette Église de Jésus-Christ qui est extraordinaire dans son essence. Oui, Seigneur, quelle chose extraordinaire que d'avoir envoyé ton Esprit Saint et cette manifestation glorieuse de la gloire de Jésus. Rien ne sera plus comme avant à Jérusalem. À partir de ce jour-là, rien ne sera plus comme avant en Judée, rien ne sera plus comme avant en Samarie, et rien ne sera plus comme avant aux extrémités de la terre. Ta bonne nouvelle et ton royaume vont s'étendre. Merci de nous avoir permis, nous qui nous sommes convertis à Jésus-Christ et qui avons reçu comme les apôtres cet Esprit Saint. Merci d'être partie prenante dans cette mission que tu as confiée à ton Église, d'être les témoins de Jésus-Christ. Nous voulons être dedans, nous voulons être avec ces 120, avec eux. Nous voulons participer, nous aussi qui avons reçu l'Esprit Saint, à cette grande mission de tout notre être, de toutes nos fibres, de notre corps. Ta parole résonne en nous pour nous envoyer comme témoins. Merci, dans le nom de Jésus.